Les conversations perchées, un drôle d'objet radiophonique co-inventé par le Merlan, scène nationale à Marseille, et la Grenouille, une conversation qui réunit artistes et spectateurs, acteurs de la vie sociale et culturelle marseillaise, habitants de ces quartiers, autour d'une question sociétale. La précédente portait sur les frontières, visibles ou invisibles, qui délimitent les territoires urbains. C'est assez logiquement donc que je vous propose aujourd'hui d'échanger sur le thème des traversées qui permettent précisément de franchir ces frontières. Traversées urbaines, c'est-à-dire parcours, déambulation, plongée dans le dédale des rues, mise à l'épreuve des corps, pour une découverte d'espaces parfois inconnus ou parfois redécouverte d'espaces trop connus, en tout cas des espaces et des traversées qui révèlent la ville comme un bien commun, comme un espace partagé. Des traversées mises en œuvre par des artistes ou des collectifs d'artistes, comme ici même Grenoble et sa fille, associés pour une série de rendez-vous du 4 au 12 juin à l'initiative du Merlan. Que révèlent ces traversées à ceux qui les imaginent, à ceux qui les pratiquent, à ceux qui les observent de près ou de loin? Quelle cartographie sensible de la ville se dessine au fil de ces parcours? C'est ce qu'on va essayer de mettre en débat maintenant, en compagnie des participants de cette conversation perchée que j'invite, pour commencer, à se présenter eux-mêmes en quelques mots.
Jacques, un complice du collectif ici même, voilà, un parmi les nombreux protagonistes de ici même Grenoble, donc les complices marseillais. Voilà.
Nathalie Marteau, je suis la directrice du Merlan.
Jérémy Garniaud, je suis d'une part doctorant en géographie, et en géographie urbaine, et d'autre part je travaille au sein de l'outil commun à la Cité des Arts de la Rue.
Marie-Hélène Lisée, moi je suis également doctorante en écologie et donc je travaille sur la façon dont les papillons colonisent l'urbain.
Je suis Dalila Ladial et je fais partie du collectif Safi.
Je suis Nadira Amsagri et je suis habitante du quartier de la Busserine à Picot.
Bonjour, moi je suis Christine Breton, je suis conservateur du patrimoine et je travaille dans les 15e et 16e arrondissements, c'est-à-dire très loin d'ici.
Bonjour, moi je suis Louise Pascal, spectatrice au Merlan et étudiante au Conservatoire d'art dramatique de Marseille.
Géraldine Garnier, je suis responsable du développement territorial et de la communication au Cosmos Soleil à la Gare Franche.
Bien, si vous voulez bien, on va commencer cette conversation. Si on considère ces traversées urbaines comme un acte artistique, il est le fruit d'un processus de création, repérage, rencontre. Pour mieux comprendre ce processus de création, on va proposer au collectif ici même Grenoble et puis à l'association Safi de nous faire part justement de ce travail, ce processus de création et nous en donner quelques clés. Alors Jacques, peut-être pour commencer sur la préparation d'une traversée, est-ce qu'elle met en jeu ?
C'est vrai que c'est pas quelque chose qui arrive comme ça, même si le collectif s'appelle ici même Grenoble, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça par hasard, quoi. C'est quelque chose qui s'inscrit dans un espace et dans un temps, dans une durée et dans un territoire fait de partenaires, etc. Donc ça s'inscrit vraiment dans une histoire. Et de la même manière, enfin, ce projet s'inscrit dans une histoire et la façon dont il se réalise, il se fabrique, il s'élabore. C'est aussi une histoire, ça veut dire effectivement des temps d'arpentage, de repérage, pour utiliser un mot un peu comme ça du vocabulaire plus de l'ordre du spectacle vivant, du théâtre ou du cinéma, mais bon, des repérages et surtout des rencontres, c'est-à-dire qu'il y a toute une face finalement, tout un versant un peu invisible. Autant hier, quand on parlait comme ça un tout petit peu, avec j'entendais le collectif Safi qui parlait effectivement beaucoup d'un partenariat avec des structures vraiment proches, quoi, proches des structures du quartier. Autant je dirais que c'est pas quelque chose qu'on néglige, mais finalement, on travaille beaucoup plus sur une rencontre individuelle. C'est-à-dire que finalement, c'est plus dans des contacts comme ça, des rencontres un peu fortuites. en allant sur le terrain, en marchant, et tout à coup, parce qu'on déambule là et que parfois ça peut paraître un peu insolite pour les habitants de marcher dans certains endroits, eh ben, la conversation, sans être perché, la conversation, au contraire, elle s'élabore comme ça, tout naturellement, et on en arrive des fois à découvrir véritablement des... pour reprendre un mot comme ça, justement, qu'on utilisait il n'y a pas longtemps, des pépites, voilà. Des pépites, des petits trésors. Et on tombe sur des gens qui ont une connaissance, finalement, du lieu, mais qui ont une connaissance, finalement, autant patrimoniale, historique, que sensible. C'est un endroit où ils ont vécu, ils ont des choses, il y a quelque chose, une mémoire aussi qui se remet en route. Voilà, donc il y a tout un temps comme ça, effectivement, d'arpentage paysager, mais humain aussi, du territoire. Et il y a un mot qui revient souvent dans le collectif aussi, c'est le mot infusion. On parle d'infusion sonore, mais je dirais effectivement c'est de l'ordre de l'infusion aussi, comme ça, vraiment prendre le temps de l'infusion et de la décoction.
C'est donc plus la rencontre humaine finalement qui conditionne le choix des itinéraires que vous allez ensuite proposer pour ces traversées que le paysage qu'on va pouvoir découvrir ou l'architecture que ces traversées vont pouvoir révéler.
Bah, après, bien sûr, il y a une écriture, mais cette écriture, elle est... bien sûr, bon, dans l'écriture, on essaye de provoquer des contrastes, des variations, je dirais, plus que des oppositions, plus des degrés comme ça d'amplitude. Mais surtout, en fait, ce qu'on essaye absolument pas, c'est d'être dans l'insolite, enfin, dans les lieux insolites, justement. Ce qui va créer l'insolite, c'est plutôt les dispositifs qui vont être élaborés, justement, dans ces moments de parcours, de rencontres. C'est parce que, justement, il va y avoir quelque chose qui va être radiodiffusé, ou parce qu'on va avoir un objet graphique à la main, ou parce qu'on va marcher, que ça fait X heures qu'on marche et qu'on a, effectivement, les sens un peu émoussillés, ou que simplement c'est la nuit. C'est plutôt ça qui va créer de l'insolite, du décalage, qui va rendre les choses étrangères, ou plutôt soi-même étranger dans sa perception. Mais c'est pas un choix, effectivement, de Marseille insolite. Absolument pas.
Peut-être sur cette même question, Dalila, comment est-ce que toi, tu élabores le processus de création, de fonctionnement des promenades que tu proposes, des traversées que tu proposes ?
Pour nous, les traversées, c'est quelque chose qui se construit. On parlait tout à l'heure d'un processus, c'est vraiment exactement le cas. On essaye en fait d'être dans une disponibilité à la rencontre et qui va, cette rencontre elle va nous transformer et on essaye de donner à voir comment la rencontre a changé notre regard en voyant notre travail l'année dernière puis cette année on voit que quelque chose s'est passé, que des choses qu'on ne regardait pas parce que on était nous, avec nos propres préoccupations. Parce qu'on a rencontré les habitants, on s'est intéressé à des choses différemment, on les a vues autrement. Et en fait, c'est vraiment ce lien qu'on tisse et qui fait que aujourd'hui n'est pas comme demain. Ce que je vois de toi n'est pas immuable, vrai, comme je l'ai compris immédiatement, mais ça chemine. Voilà, en fait, on chemine ensemble. Et c'est cette relation-là qu'on essaie de nourrir. Ben, je pense que l'idée, c'est de construire un monde dans lequel on va être frère. Excusez-moi, mais voilà, c'est ça. C'est quelque chose comme ça qui voilà, une humanité, quelque chose où, en fait, entre hommes, on tisse. Et ça, nous, cette possibilité, en fait, de tisser un lien, elle passe beaucoup par les végétaux aussi. Et je pense que notre civilisation, elle est fondée sur des choses comme ça, où des hommes rencontrent des plantes et ensemble, ils bâtissent des villes. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est comment ce lien-là, qui est profond, qui est intime, qui est lié à quelque chose d'atavique, réexiste ici, dans cette ville qui peut paraître parfois peut-être un peu trop urbaine, où on n'a plus forcément la maîtrise, et bien là, d'être replongé dans ce lien-là, quelque chose d'essentiel, terrestre, les pieds dans du quotidien et dans de la terre, je pense que ça nous fait imaginer ce que pourrait être une ville moderne autrement. Et on cherche ça.
Ce que tu dis là, Dalila, c'est que bien que tu connaisses très bien les itinéraires que tu pratiques et que tu proposes aux participants de ces traversées, à chaque fois, elle est réinventée parce qu'elle dépend des participants de cette traversée et aussi des gens qui sont rencontrés. C'est ça qui fait l'essence.
Oui.
Jacques, peut-être, tu partages aussi ce sentiment?
Oui, c'est exactement le cas. C'est-à-dire que ça s'adresse à un groupe, entre guillemets, de marcheurs. Donc, l'expérience, elle va être faite de ce groupe. Elle va être faite de la rencontre de ce groupe aussi, sur le moment, sur ce temps de la nuit, avec ce qu'on va croiser, c'est-à-dire autant de personnes, peut-être, justement, prévues ou imprévues. Moi, ce qui faisait écho pour sa fille aussi, c'est l'idée peut-être du détour. Voilà, quand tu parlais de la construction d'un itinéraire, c'est effectivement peut-être aussi prendre des détours, l'idée du détour et puis l'idée du ralentissement, de prendre le temps de ralentir, de traverser les choses. Et dans le mot traverser, ce que j'aime bien, c'est qu'on traverse, mais surtout aussi on se laisse traverser. C'est ça aussi, c'est prendre le temps, de trouver les moyens de se laisser traverser. Voilà.
Du détour à la dérive, est-ce qu'il y a aussi à un moment ce besoin de se sentir un peu perdu ?
Ah ben bien sûr, oui, puis ce qui est mis en œuvre, c'est justement des moyens de se mettre dans cette perdition ou de se rendre, entre guillemets, étranger à cette ville que l'on a l'impression de connaître, et donc de trouver les moyens de décaler un petit peu le regard, les perceptions, la connaissance qu'on pense en avoir, soit par l'expérience qu'on va en avoir et aussi par l'échange sur le moment même aussi. C'est une histoire personnelle et une histoire collective aussi. C'est aussi des échanges. C'est composer un paysage de point de vue, quoi. Voilà, c'est une expression que j'aime bien. C'est composer un paysage de point de vue. C'est ça. C'est qu'on fait pas ça tout seul aussi. On est avec d'autres. Et voilà, on a affaire à des choses qui relèvent aussi de la subjectivité et on échange là-dessus et ça modifie peut-être justement notre perception, notre compréhension de cette ville et de ses habitants, quoi.
Changer notre regard au travers de ces parcours pour découvrir, mais aussi sûrement redécouvrir des espaces connus, très connus, trop connus, décaler le regard sur ce qui semble familier, c'est aussi un des enjeux de ces traversées. Alors Christine Breton, c'est aussi peut-être ces traversées que tu pratiques l'occasion de découvrir que le patrimoine n'est pas fait que de monuments. Ça n'est pas que le patrimoine doré, c'est aussi découvrir dans la ville des traces de l'activité humaine, des traces de l'histoire, des traces du passé et d'un passé parfois proche, qui nous interrogent sur notre relation à l'histoire et comment est-ce que la ville s'insère dans cette relation à l'histoire. Christine ?
Je ne sais pas si j'arriverai à répondre et à relier tous les mots que tu viens d'utiliser. En revanche, voilà, en revanche. En écoutant les deux artistes juste avant, moi j'avais très très envie de mettre sur la table de cette conversation en perché le mot de nécessité, parce que c'est vraiment comme ça que je les vis, les traversées urbaines et les balades, ce que vous voulez, les marches, tout le vocabulaire vous pouvez l'utiliser. Une nécessité, mais une nécessité pas encore vitale, d'abord une nécessité économique. Une nécessité économique parce que quand j'ai commencé en 1999 à marcher avec les habitants des quartiers, c'était simplement parce que le budget était égal à zéro. Et que quand vous avez un budget égal à zéro et que vous faites de la restitution ou que vous faites de la rencontre, quoi de mieux que d'aller marcher ensemble, ou que vous faites de la recherche, quoi de mieux que d'aller marcher ensemble, d'aller voir ensemble et d'y aller ensemble pour parler ensemble, pour voir si on est à peu près d'accord ou si on voit la même chose, etc., etc. Vous voyez ? Et cette nécessité, à la fois institutionnelle, parce que quand je dis budget zéro, c'est vraiment budget zéro d'une institution. C'est-à-dire que je ne parle pas là en mon nom de Christine Breton, mais au nom d'une fonction publique qui est dans un espace urbain donné, qui dans cet espace urbain donné est utilisé par les citoyens. Et cette fonction publique, il y avait quoi de mieux que de répondre à la nécessité. Non seulement par ce qu'on a là, voilà. Peut-être on augmente le budget des chaussures, mais c'est tout ce qu'on peut augmenter comme budget. Pour le reste, ça marche bien, quoi. Je sais pas pour les autres, mais c'est comme ça que j'ai vécu. C'est le premier mot. Ensuite, par rapport à tout ce qui est patrimoine, histoire, bizarrement, quand je suis en marche, je n'ai jamais l'impression de marcher d'abord avec patrimoine, histoire. Jamais, jamais, jamais. C'est-à-dire que j'ai toujours l'impression d'être là. Vous voyez ? La différence avec patrimoine-histoire. Quand on dit histoire, on a déjà des mots où on s'est projeté, c'est un mot qui nous projette dans de l'espace et du temps, alors que du être là, c'est du présent pur. Alors c'est bizarre pour quelqu'un dont le métier est patrimoine-histoire, on n'est pas à une première contradiction près, hein, vous allez me dire, mais bon, ça ça me semble important. Mais après, le grand danger.
Le grand danger, c'est le guide. Terrible, le guide. Alors, il y a le guide suprême, le guide du peuple, le guide de la marche, hein, dans les quartiers. Atroce. Le guide, ça voudrait dire regardez à droite, regardez à gauche, regardez la jolie cascade, regardez la jolie grotte des Carmes, etc., etc. Impossible. On ne peut pas partir comme ça. Pour une seule raison, là encore, qui est une nécessité, c'est qu'il n'y a rien dans les quartiers au sens de un patrimoine et une histoire qui seraient désignés comme tels, parce que dans les quartiers dans lesquels nous vivons, il n'y a pas la place pour le patrimoine et l'histoire. C'est contraire. C'est contraire au prolétariat qui, lui, ne doit pas avoir d'histoire, parce que de toute façon, il est là pour bosser. Il est là, c'est dans le être là de l'atelier. Donc, vous voyez, c'est pas possible. Donc, on est bien content quand on trouve un monument historique classé. Puis après, on se bagarre pour qu'il y ait un petit peu plus de monuments, si possible, inscrits ou classés. Et puis après, on est super heureux quand, grâce aux habitants, on s'aperçoit qu'il y a là cette géologie absolument monstrueuse, énorme, cette géologie de tous les discours entassés là. Ah oui. Alors ça, oui, pour moi, ça fait histoire.
Un rebond, justement, à ce qu'évoquait Christine, à la fois... Peut-être pour commencer sur ce rôle du guide hein, qu'elle dénonçait, et puis ensuite sur ce qu'elle évoquait de ce rapport vraiment au être-là.
Pour nous, guides, en fait, on est guidés les uns les autres. En tout cas, ici, là, depuis 2 ans, on se balade pas mal dans le même quartier. Je commence à le connaître un peu, sauf que je me balade avec des gens qui habitent. Donc, ils le connaissent largement aussi bien que moi. Juste, des fois, on le connaît pas pareil. Je pense que chacun, si on va de là à là, on va se montrer des chemins différents. Donc, on est guide tour à tour, quelque chose comme ça. Et chacun va se montrer... son patrimoine, l'un à l'autre. Donc je pense que c'est ça, cette discussion, elle permet de désorienter, désaxer les points de vue, de dire, bon, ce qui pour toi est patrimonial, c'est ça, pour moi, c'est ça, et on essaie de construire ensemble une histoire. Voilà, donc moi, guide, c'est pas quelque chose qui me... Enfin, je me sens... Et ni mal à l'aise, ni spécialement concerné par cette notion de guide.
Christine Breton.
Et en t'écoutant, on voit que ça sert à rien, quoi, ce mot. On peut l'enlever tout de suite, quoi. Il n'a pas de raison d'être. Parce que c'est vrai que c'est cette géologie dont je parle de tous ces discours, que c'est ce qui fait histoire, c'est ce qui fait patrimoine, mais surtout, c'est ce qui fait fondation. C'est ce qui fait qu'on est ensemble. Et là, le groupe se reboucle. Vous voyez, un récit de fondation, c'est ce qui fait qu'un corps social peut se fabriquer. Le groupe avec lequel on marche, qu'il soit de 1 personne, 2 personnes, ou 20 personnes, ou 200, hein, peu importe, le groupe avec lequel on marche, il fait société. Grâce à ces récits de fondation, il devient société. Ouais. Alors là, oui, il y a ces fameux moments de grâce qui est ma petite essence à moi, hein, mon petit diesel à moi. C'est extraordinaire, ces moments de grâce, quand ça fait société. Ça doit être pareil avec vos papillons, vous, mais c'est merveilleux, quoi. On le sent physiquement. On sait qu'on est en train de faire société.
Ça, c'est quelque chose que nous, on éprouve beaucoup et puis qui vient nourrir les constructions. C'est-à-dire que nos ateliers se passent souvent en 2 temps. Ce qu'on fait toute l'année avec des habitants, c'est en 2 temps. Il y a souvent le matin, on se balade. L'après-midi, on construit quelque chose. On met en acte quelque chose. Et en fait, quand on se balade, il y a une espèce de petite constitution de société, une espèce de rapport comme ça au corps. On marche, un rythme. Comprend. Et puis après, on va construire quelque chose ensemble. Et je pense que dans cet acte-là, de toute cette petite journée, du premier moment où on marche juste, on se frotte, on se touche, on se cale, on trouve notre rythme, on met nos pas les uns dans les autres. Et puis après, l'après-midi, on prend 2 cailloux et on fait du feu. Dans cette chose-là, en fait, on rebâtit quelque chose, on espère autre chose. Et ça, je pense que ça nourrit notre réflexion, parce qu'on n'est pas extrait de la ville quand on fait ça. On n'est pas dans une grotte, hein. On est là, ici, maintenant, à Marseille. Et ça se passe aujourd'hui. Et c'est en interaction, parce qu'entre-temps, on a des coups de fil. Donc, c'est comment on fait résonner cette construction-là et le ici et maintenant. Et ça s'accorde bien. Il n'y a pas de... C'est pas dans quelque chose de passéiste. Hein. C'est vraiment dans comment on construit aujourd'hui,
et demain.
Oui, bien sûr.
Il y avait un grand sourire de complicité là, entre toi, Dalila, et puis Nadira. Nadira Msagri, qui est juste à côté de toi, qui a participé aux traversées que tu proposes. Alors peut-être c'est l'occasion de lui proposer maintenant de raconter un petit peu son expérience. Comment tu as vécu, Nadira, justement, la participation à ce qui était proposé par Safi?
Alors, au début, je me suis, en reprenant le terme, laissée guider pour réapprendre à connaître mon quartier. Parce qu'il faut dire, on a beau y vivre, on ne connaît pas tous les trésors qu'il peut y avoir. Et c'est vrai que ces ateliers qui étaient proposés, une partie balade, une partie créativité de l'après-midi, ça rentrait bien dans le cadre de ce qu'on voulait faire. Et l'option suprême qu'on a eue dessus, c'était la finalisation d'un jardin partagé. Et je crois que c'est toutes ces balades, tout ce qu'on a vécu sur ces deux années, ça a été pas que de la joie, c'est vraiment plus fort que la joie, parce que il y a eu des rencontres humaines. On est très content maintenant. On se considère vous disiez une société, moi je dirais même un peu plus fort, une famille. Et le fait de l'année dernière avoir participé aux balades d'ici même Grenoble, c'était un plus, cette balade qu'on a fait, et d'avoir là servi de guide, ça m'a fait changer, je dirais, de poste. J'avais l'impression je voulais montrer ce qu'on m'avait montré, d'un suivi, d'un partage, un peu comme quand on laissait une trace, voilà.
Toujours sur cette idée de raconter un petit peu de l'intérieur, le vécu de cette traversée, Louise. Comment est-ce que tu as vécu, toi, la proposition, c'était l'an dernier, d'ici même Grenoble, de traversée nocturne. Cette idée de partage, cette idée de force du groupe, tu l'as ressentie aussi ?
Oui, alors oui, et c'était intéressant parce qu'on était, enfin, on se connaissait pas beaucoup entre nous, et c'est vrai qu'à la fin de la nuit, on avait beaucoup cette impression de collectif et de groupe qui s'était formé parce que pendant la nuit, il y en avait qui avaient, enfin, on s'était entraidés, on s'était même vraiment perdu à un moment aussi, et puis on avait aussi dormi ensemble, et ça c'était important aussi, cet instant, enfin, ce moment où on était tous dans le Merlan sur la scène, en train de dormir, et où on s'éveille, on voit tous ces gens autour et on se souvient de tout ce qu'on a fait dans la nuit. Et effectivement, c'est toujours intéressant de voir. Et puis aussi, entre les générations, parce que, enfin, en l'occurrence, moi et l'ami avec qui j'étais, on avait 19 ans et on était avec des gens qui avaient beaucoup plus âgés que nous. Et finalement, on se rencontrait aussi par la marche et par les expériences qu'on avait pu faire.
On voit bien là que la perception de la ville, elle est très différente suivant qu'elle est diurne ou nocturne. Et le choix que ici même fait de proposer des traversées la nuit, c'est pas un choix innocent, enfin, c'est vraiment un choix délibéré. C'est pas du tout la même perception de la ville, Jacques.
C'est pas la même perception. Déjà, c'est pas la même... Je dirais que quand on pose la question simplement même aux gens de savoir s'ils marchent la nuit, ils vont répondre non, voilà. Personne ou pratiquement personne ne marche la nuit, sauf vraiment un déplacement très utilitaire parce qu'on rentre du boulot ou parce qu'on bosse la nuit. Ou... Sinon, c'est vrai que le fait de se déplacer, de se déplacer comme ça, effectivement, dans une sorte de pur déplacement, de dérive la nuit, c'est quelque chose déjà de rare. Et quand on pousse un peu la discussion, les raisons, elles sont multiples, mais c'est vrai que il y a souvent une appréhension comme ça de cet univers, de la nuit, de la ville la nuit, de Marseille en plus la nuit, des quartiers nord éventuellement la nuit. Enfin voilà. Donc je dirais que c'est aussi une bonne manière déjà de confronter notre imaginaire, nos fantasmes, la rumeur et puis la réalité du terrain. En même temps, c'est vrai que la nuit, Marseille, c'est pas non plus les bisounours, quoi. Mais oui, effectivement, ce choix de la nuit. Bon, puis c'est aussi l'idée de la durée. C'est aussi l'idée de la fatigue qui s'installe. Et puis c'est aussi le temps de la nuit. C'est aussi le temps du rêve, quoi. C'est ça. C'est de confronter aussi quelque chose qui serait de l'ordre, je disais, du fantasme, de l'inconscient aussi, entre le réel et la fiction, quoi.
Louise, le fantasme et le réel dans ces traversées de nuit. Je vois que ça te faisait sourire.
Justement, toutes ces appréhensions qu'on peut avoir précisément sur Marseille la nuit, je trouvais que c'était ça qui était notamment très très fort dans cette traversée-là, c'est qu'à aucun moment on s'est pas senti en sécurité à aucun moment. Et pourtant, c'est vrai qu'on est dans les quartiers, enfin, on était dans les quartiers qui étaient dits sensibles. Et pourtant, moi, je suis pas de Marseille. C'est vrai que j'avais un peu d'appréhension par rapport à me balader la nuit comme ça. Mais c'était vraiment incroyable le fait de d'arriver et de sentir qu'on était pas vraiment en danger, pas du tout. Au contraire, et peut-être parce que justement, on était là pour passer, pour traverser, pour découvrir, et pas un trajet utilitaire où on se presse de rentrer parce que justement on a tous ces fantasmes-là sur la peur de ce qui pourrait arriver. Pas du tout. Et justement peut-être parce que on était dans les endroits, dans les friches. Enfin, je me souviens qu'à un moment on est passé dans un figuier. Et à aucun moment on se sentait en danger, même si on a fait quand même des trucs un peu aventureux.
Géraldine, tu voulais un peu.
Oui, de ce que j'entendais, j'avais vraiment l'impression d'entendre la posture du touriste, en fait. C'est-à-dire, quand on est touriste dans une ville à l'autre bout du monde, on a rarement peur, même si on est dans des lieux un peu glauques. Et c'est cette posture du touriste, c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous travaillez? Comment ça se... Est-ce que ça se dit comme ça?
La provocation qu'elle nous fait.
Alors, peut-être Dalida ou Jacques, Dalida.
Oui,
enfin, je réfléchisse.
Non, mais effectivement, c'est toujours l'idée de se rendre étranger. C'est, enfin, le mot touriste, il est peut-être un peu difficile à utiliser, donc je préfère l'idée d'étranger, de se rendre étranger dans sa ville. Oui, parce que, enfin, je sais pas, le mot tourisme me gêne comme ça au premier abord, mais c'est plutôt l'idée de l'étranger qui arrive dans cette ville et qui ne la reconnaît plus. Voilà, mais ça ne veut pas dire effectivement être naïf, parce que bon, en plus pour la touriste, c'est un mot, enfin c'est très très large. On peut être touriste et naïf, ou on peut être au contraire touriste et très attentif et réceptif aux choses et prêt à réagir aussi, quoi. Enfin, c'est pas non plus être dans une désinvolture. Je crois que c'est être dans un état d'écoute, d'attention et d'être prêt aussi à réagir. Et pourquoi pas, si dans cette nuit il y a besoin à un moment donné de prendre ses jambes à son cou, mais pourquoi pas le faire? Non, mais c'est pas non plus aussi une famille qui se promène comme ça et on va rencontrer d'autres familles et on s'aime tous. On sait bien que la vie, c'est pas ça, et que la ville, c'est pas ça non plus. Mais c'est aussi, effectivement, comment on passe dans un territoire, et on respecte aussi, justement, ce qui est en vigueur dans ce territoire. Voilà. Donc, on n'est pas inconscient, et on n'oublie pas aussi qu'il y a des codes, des préséances, des signes, des façons de faire, des usages, et qu'on y fait attention, bien sûr. Ouais.
Dalida, le respect de ces lieux, ouais. C'est ça qui fait la différence, au fond, avec le tourisme.
Mais non, en fait, je crois que je me vis, en fait, comme une touriste. Je pense que chaque fois que je me balade, les choses sont comme quand je vais en voyage, j'ai des choses à découvrir, je me laisse pénétrer par les rencontres que je fais, elles me nourrissent autant que quand je vais loin. En fait, je crois qu'à l'inverse, je me sens totalement touriste, j'ai pas peur. Je ne connais pas les codes du lieu, je connais les codes du respect humain. Les codes du lieu, je m'en fous. Je ne respecte pas de préséance ou de je sais pas quoi. C'est d'homme à homme. Voilà, pour moi, ça se situe là. Après, où on est, je fais un voyage, je rencontre des gens, je suis accompagnée, seule. Et puis, je fais comme quand je fais dans la vie. Je respecte les gens qui sont autour de moi. Pas ici, plus qu'ailleurs, en fait, voilà.
Donc, dans une seconde, mais je voudrais peut-être donner la parole à Nadira, parce qu'à la fois, tu as participé aux activités que propose sa fille, mais en même temps, tu es habitante de ces quartiers. Donc, tu as à la fois le double regard, à la fois de participer et en même temps de regarder passer ceux qu'on pourrait appeler les touristes. Alors, qu'est-ce que tu en penses, justement? Comment tu as vécu ça, toi?
Ben, je me suis vue dans les deux, en fait. J'ai joué la touriste aussi. Et c'est vrai ce que disait Dalida, c'est que quand on part en balade, on fait abstraction de tout, on va à la découverte de lieux qu'on va visiter et à chaque fois c'est peut-être les mêmes lieux mais on les voit de façon différente puisque nous c'est plus sur les plantes donc automatiquement c'est d'une saison à une autre, c'est pas le même spectacle qui nous est offert donc à chaque fois pour nous c'est un lieu différent et pour les balades c'est vrai que voir ces gens qui déambulent ça nous... On se dit, mais ils font quoi, eux, ici? C'est pas carnaval. C'est vrai que des... oui, mais c'est qui, lui?
Il vit...
Comment réagissaient tes voisins, tes voisines, justement?
En général, ça se passe assez bien, donc il n'y a pas de... Bon, mais il y a des endroits qui sont plus chauds que d'autres. Où... C'est pas que ça réagit mal, c'est qu'ils sont un peu à l'affût de se dire c'est... ils font quoi, pourquoi ils furettent, et ils cherchent quoi, et pourquoi ils ont leurs appareils photos, et pourquoi ils ont leurs caméras. Bon, mais après, on passe. C'est un peu... Des fois, il faut juste les ignorer et ça se passe bien. Ou des fois, il faut se retourner, leur répondre, quoi. Mais ça dépend des fois, quoi.
Je pense, en écoutant ce que vient de dire Dalila, qu'on est vraiment en train de toucher le cœur de la définition des traversées urbaines que tu essayes de faire en nous mettant autour de cette table. Hein. C'est qu'il ne s'agit en aucun cas de géographie physique. En aucun cas. On n'est pas dans de la géographie. Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est de l'urbanisme. C'est du savoir-vivre, mais ça n'a rien à voir avec, à mon sens, hein, je crois que ce serait très intéressant de se dire ça. Et du coup, de se le dire par rapport aux représentations, excusez-moi, hein, parce qu'il y a Jérémy, il va bondir, peut-être il ne va pas être d'accord avec moi. Mais du coup, si ça n'est pas de la géographie, ça ne se représente pas comme de la géographie, ça ne se cartographie pas, ça ne se guide pas, ça ne se touristise pas, ça ne se etc., etc., pas. Ça devient passionnant quand on arrive à l'endroit où nous parlons tous la même langue, c'est-à-dire au mythe, vraiment au récit de fondation, à l'espace dans lequel, de toutes les langues, on peut parler. C'est vraiment une question d'humanité. Elle a raison.
Alors, Jérémy, ça n'est pas de la géographie, c'est de l'urbanisme. Tu as peut-être un point de vue un peu différent, toi,
Jérémy. Un petit peu. Un petit peu, parce qu'il y a un vieil adage en géographie qui dit qu'un géographe, ça pense avec ses pieds. Et que, pour moi, ça résonne vraiment avec ce qu'ont dit les marcheurs qui sont là aujourd'hui. Dans le sens où la géographie, pour moi, elle se fait peut-être dans la construction d'un regard sur un territoire et puis d'essayer de synthétiser, d'analyser, de produire du savoir, toutes ces choses-là. Mais ça peut pas être déconnecté de la connaissance de ce territoire-là et puis d'aller et de marcher et de rencontrer les gens qui y habitent, les gens qui le pratiquent, les usagers, d'avoir tout le temps cet échange-là. Et à partir du moment où c'est... Enfin, pour moi, ça reste... mon avis, je le partage, à partir du moment où il y a une déconnexion entre les usagers de ce territoire et puis l'analyse qui en est faite après, ou en tout cas le travail géographique, avec un petit peu de distance qui est fait derrière, ça me paraît pas très intéressant.
Alors la question du terrain, mais aussi la question de la cartographie, de la capacité justement de cartographier ces territoires et d'avoir, pour employer une formule un petit peu à la mode, une cartographie sensible. Il se trouve que la géographie évolue beaucoup de ce point de vue-là dans les modalités qu'elle procure aujourd'hui en matière de cartographie, Jérémy.
Oui, c'est intéressant parce que ces marches-là, elles révèlent des visions du territoire qui n'apparaissent pas sur les cartes qu'on connaît et qu'on utilise régulièrement, que ce soit des cartes de l'IGN, par exemple, qui sont orthonormées, qui sont toutes selon des normes très précises, que ce soit des cartes thématiques qui présentent des limites administratives ou des données sociales. On a toujours un petit peu cette idée d'un territoire avec le nord qui est orienté au nord, avec des choses qu'on reconnaît, qui sont acceptées par tout le monde. Et le travail d'ici même Grenoble, le travail de Safi, ça révèle d'autres espaces qui sont les mêmes concrètement, spatialement, sauf que justement là on les voit sous un autre angle. Alors c'est ce qu'on a essayé de faire dans le cadre de l'outil commun ces derniers temps, un travail de cartographie.
Tu rappelles en deux mots ce qu'est l'outil commun ?
Oui, bien sûr. L'outil commun, c'est un réseau de structures culturelles qui est composé donc de la Gare Franche, de la Cité des Arts de la Rue, du Merlan, de Les Arts à Part et de lieux publics. Ces acteurs culturels se réunissent pour réfléchir ensemble au désenclavement réciproque de leur territoire, de leur quartier, et d'essayer de mettre en commun toutes les connaissances territoriales qu'ils ont. Et dans ce cadre-là, donc, avec Jessie qui est avec nous, et avec Elsa Van Zande, on a fait une petite expérience de cartographie mentale pendant 2-3 semaines. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est promené, on a rencontré le plus de monde possible dans les quartiers que je viens de citer, que j'ai pas cité d'ailleurs, puisqu'il s'agit du Merlan, des Égalades, de Saint-Antoine et de Saint-André. Donc ils sont tous situés dans les quartiers nord, dans le 14e pour le Merlan, et sinon dans les 15e et 16e arrondissements.
Et cartographie mentale.
Voilà, cartographie mentale. Donc il s'agit d'aller rencontrer des habitants, des usagers d'un territoire, et de leur demander de nous dessiner sur une feuille blanche le territoire en question, soit sous la forme d'un plan, d'un lieu fixe, et puis des repères, des points de repère, des axes importants, des nœuds qui se retrouvent sur ce plan. soit sous la forme d'itinéraire. Comment, si je suis au Merlan, comment est-ce que je vais à Saint-Antoine? Et ça, on l'a fait sous différentes formes, en plusieurs sessions. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir que la ville est vécue, ce que moi j'en retire de ce travail-là, de façon extrêmement différente, en fait, que les visions des distances, les visions des proximités, des frontières, sont complètement différentes selon les individus. On a peut-être une centaine de cartes et ça reste au final extrêmement parcellaire, puisqu'il y a peut-être autant de visions qu'il y a de personnes qui habitent une ville.
Et ces cartes peuvent être dynamiques. Tu peux arriver à synthétiser, au fond, les points de vue subjectifs donc de ces différentes cartes mentales des différents participants et créer une sorte de carte, métacarte, on va dire, qui synthétiserait l'ensemble de ces subjectivités-là. Mm-hmm. C'est possible ?
C'est possible. On peut, en réécoutant les entretiens, en re-regardant en observant les cartes qui ont été dessinées, ressortir en fait les points importants en essayant de synthétiser un petit peu tout ça pour produire après, c'est quelque chose que j'ai pas encore fait, donc c'est intéressant d'en discuter, une cartographie qui soit une cartographie sensible, qui repose sur finalement les trajets, qui mettent en avant les itinéraires, les trajets qui sont les plus empruntés, les lieux qui sont les plus cités, finalement la forme du territoire selon la façon dont on l'aura raconté. Quoi.
Cette cartographie, elle est là pratiquée par un géographe, c'est son métier, mais aussi pratiquée par sa fille, par ici même, justement, dans le cadre de leurs activités. Alors, comment est-ce que toi, Dalila, tu pratiques justement cette cartographie des territoires que tu traverses?
Alors, au départ, en fait, la première carte qu'on a faite, celle de l'année dernière, elle visait plus qu'à rendre compte, on va dire graphiquement, d'un territoire, plus à rendre compte d'un parcours, du fait que on avait traversé la ville et en traversant la ville, on a ramassé des graines. Au départ, c'était vraiment juste cette idée d'inscrire sur un morceau de papier un parcours suffisamment clair pour que d'autres, en dehors de nous, puissent faire aussi cette balade-là et qu'ils puissent avoir leur propre expérience de ça. C'était ça un peu l'idée. C'était comme un grand trait rouge jeté sur un papier en disant « je suis allée là », un peu une carte au trésor. « Je suis allée là, je suis allée là, je suis allée là ». Mais en fait, on voulait pas que les gens soient complètement perdus non plus. Enfin, ils pouvaient être perdus, mais au moins dans les quartiers nord. donc il fallait quand même qui est une carte. Et du coup, on s'est dit, on va redessiner les endroits, les rues où on est allé. On s'est rendu compte que les plans de Marseille n'étaient pas exacts, qu'il y a des endroits où on avait des trucs magnifiques, on voulait absolument que les gens puissent y aller, mais en fait, ça apparaissait pas sur les cartes. Donc, il a fallu tout redessiner. Et quand on s'est mis à tout redessiner, ça nous a, comme quand on se balade, plongé dans un univers. Et on s'est rendu compte que non seulement n'apparaissaient pas les rues, mais n'apparaissaient pas les rues à l'extérieur des cités, certaines ne sont pas présentes. Il y en a qui sont dissimulées. Il y a des rues, comme des bonus tracks à la fin des CD, il y a des rues cachées. Donc on s'est dit, quand même, c'est incroyable comme truc. Et on s'est rendu compte aussi que les rues à l'intérieur des cités n'apparaissaient pas, que les immeubles n'apparaissaient pas. Enfin bref, il reste quoi de ce que nous on voit? Donc on s'est dit, tiens, cette année, on pourrait peut-être un peu plonger dans cet univers-là et redessiner l'intérieur des cités, tous les bâtiments qu'on a pu voir, tout ce que les gens nous ont raconté à propos des travaux. Celui-là, il va y être, mais il n'y est plus, il est devant, derrière vous. Et là, on est rentré dans, non pas ce qu'on a vu, mais aussi ce qu'on nous a donné à voir, ce qu'on a compris de ce qui se passait entre nous, de toutes les interrogations que les gens avaient quant à au bouleversement de la transformation du quartier, etc. Et on s'est dit, peut-être que la carte, elle peut aussi montrer notre cheminement. On est parti en 2008 de ça, un voyage, une traversée, une carte au trésor, aller chercher des petites pépites. Et puis aujourd'hui, on passe à... Alors là, nous, on a vu des choses qu'on aimerait vous faire partager. Donc c'est aussi un peu une carte de notre esprit, de notre vision des choses. Voilà, et du coup, c'est un processus aussi, la carte. Et c'est un outil. Nous, on est plasticiens au départ. C'est ça aussi, je pense que... Des fois, je le dis pas forcément toujours. On est à un endroit assez particulier. C'est qu'on est en compagnonnage avec un théâtre qui programme normalement plutôt de l'art vivant. Nous, on est plasticiens, c'est-à-dire qu'au départ, on fait de la sculpture Pour nous, il y a quelque chose de cet ordre de ce qu'on fait, c'est une façon différente de pratiquer notre métier de plasticien.
Jérémy, on voit que les cartes de l'IGN sont assez lacunaires et que peut-être les artistes qui travaillent justement sur ces territoires permettent de les compléter, de les annoter, de donner des informations qui sont tout à fait différentes et pertinentes. Alors, ça milite plutôt pour un dialogue entre les artistes et les chercheurs, tout ça. Et
tout à fait. Je pense que c'est un dialogue qui existe peut-être déjà sous différentes formes. Ce qui est intéressant, c'est que quand des chercheurs ou des artistes travaillent sur le même objet, ils n'ont pas le même angle de vue, le même angle d'approche. Et donc forcément, souvent, il y a une curiosité réciproque. Et puis, une démarche enrichit l'autre. Donc, en effet, dans l'idée de ce que dit Dalila, moi, je l'ai rencontré dans d'autres cartes. Enfin, les absences sur les cartes, le fait qu'on a des cartes lacunaires ou qui représentent mal les choses, il peut s'agir de l'hygiène, il peut s'agir de tout le monde a peut-être fait l'expérience de Google Maps et de voir qu'il y a quelque chose qui, des fois, des secteurs de Marseille sur Google Maps qui sont complètement faux. Des routes fausses existent dans Google Maps et les vraies routes ne sont pas. Comment est-ce que on peut, avec ce que vous avez fait sur cette carte du Merlan, avec plein de petites, de différentes initiatives, de différentes approches, enrichir en fait et recréer une carte de ces quartiers-là, faire quelque chose qui redonne une visibilité, qui en plus revient d'une pratique de balade, de curiosité, de rencontre qui reste assez proche et assez humaine.
Alors, Safi travaillait sur une cartographie sensible de ces quartiers au travers des graines, notamment, et des plantes sauvages qu'on pouvait y découvrir. Ça montre à quel point la ville, ça n'est pas que de l'urbain bétonné, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler une ville sauvage. C'est aussi un endroit où on peut découvrir, au travers de ces traversées, une faune, une flore. Alors peut-être, Marie-Hélène Lisée, quelques mots sur toi, ton expérience de travail avec les papillons.
Ben, j'ai beaucoup de choses à dire. Il y a énormément de choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. D'abord, la carte. Moi, c'est un problème auquel je me suis trouvée confrontée. Donc, après avoir parcouru Marseille, récolté des papillons, il fallait que je comprenne pourquoi ils étaient là et que donc je passais une phase plus d'analyse que de balade au filet. Et là, c'était pas un problème de données lacunaires, incomplètes, c'était un problème d'absence complète de données sur ces espaces interstitiels, en fait. Là, on change complètement d'échelle, on n'est même plus à l'échelle de l'humain qui se balade, on est à l'échelle du papillon, qui est petit. Et la ville, ben, pour être traversée, pour la voir traversée par le papillon, il faut presque la regarder à l'envers. Enlever ces routes qui vous manquent, enlever ce bâti aussi qui vous manque parfois, et puis regarder tous ces interstices où va pousser un petit peu de la végétation qui n'est pas obligatoirement contrôlée. Et ça, c'est quelque chose qui est absent de la carto. On va trouver les parcs urbains, on va trouver des espaces boisés, classés. Et puis finalement, voilà, je parle d'interstices parce que je ne sais pas comment les appeler. Parfois, c'est de la friche, parfois, c'est du talus de route. On ne les a pas. Et du coup, comprendre la ville du point de vue du papillon ou d'autres animaux, c'était quasiment impossible avec les données dont on disposait. Donc là, pour le coup, c'est un petit peu moins sensible comme carto. On est passé directement à l'image satellite pour détecter finalement où était le ver à Marseille, parce que c'est quelque chose qu'on cartographie pas. On va cartographier les alignements d'arbres qui sont gérés par la mairie, mais voilà.
Le vert
comme la couleur. Les espaces de nature, mais qui ne sont pas toujours considérés comme de la nature par l'écologie traditionnelle qui elle, se borne souvent à travailler dans des espaces exempts d'activité humaine. Elle est là, la nature. Et donc, on se retrouve un petit peu à ouvrir une boîte noire qui, jusque-là, n'a jamais été considérée par la biologie, par l'écologie. C'est qu'est-ce qui se passe dans la ville? La ville, ce n'est pas que du béton. Et finalement, on manque un petit peu d'outils pour rentrer dans cette ville du point de vue de l'écologie. Après, voilà, pour rebondir sur tout ce qui a été dit, il y a des choses qui m'ont touchée parce que ça pourrait être la façon dont moi je vois le paysage à travers les papillons. Jacques parlait quand on parlait de traversée de ville en tout début, en introduction, de quelque chose qui s'inscrit dans un territoire, dans une histoire. Ben c'est pareil, la présence d'un papillon à un endroit donné dans Marseille, ça va dépendre aussi de l'histoire de ce petit bout de nature. Est-ce que c'était une ancienne friche agricole? Est-ce que on est reparti de zéro il y a un an parce que on a détruit une dalle de béton et on laisse la nature recoloniser parce que depuis un an on n'a pas touché? On va pas trouver les mêmes espèces de papillons sur un ancien territoire de Bastide ou au contraire sur une ancienne vigne. Donc voilà, cette histoire de territoire et d'histoire de ce territoire, on va le retrouver dans la composante naturelle. Elle se sera exprimée vraiment à ce niveau-là. Et après, autre chose qui m'a beaucoup touchée, c'est Dalila qui parle de tisser. Et ça, c'est quelque chose... Moi, l'urbain, je le vois maintenant vraiment comme ça, après avoir passé 3 ans à courir après les papillons. Il y a cette notion de tissu vert. On enlève le béton et finalement, on voit que tout ça, ça percole. Il y a des circuits, il y a ce qu'on va appeler après plus scientifiquement des corridors. Mais voilà, il y a un tissu et qui est là aussi, voilà, lié aux habitants, aux usagers, à comment les gens traversent cette ville et l'utilisent. Et ça, ça va conditionner ce qu'on va trouver comme nature à un endroit donné. Je travaille en plus un peu plus particulièrement sur le jardin, moi, et je m'intéresse vraiment à comment nos pratiques de cet espace et des végétaux peuvent conditionner la présence de certaines petites bêtes.
On observe aujourd'hui que la faune sauvage est parfois plus à l'aise en ville qu'à la campagne. C'est le cas notamment des abeilles, par exemple, dont on dit qu'elles sont dans les espaces cultivés, agricoles, victimes des pesticides et des produits qui sont déversés par les agriculteurs. Est-ce que c'est le cas aussi des papillons ? Est-ce qu'au fond, maintenant, la ville, ça devient une espèce d'endroit où la faune va se développer ? Parce que c'est peut-être l'endroit où elle est le plus confortable.
Non,
c'est un peu provoquant, hein.
Ouais, je pense pas malheureusement qu'on puisse encore dire ça. Enfin, même si à Marseille on a une chance inouïe. Je sais pas comment le dire, je veux pas vexer la mairie avec qui je bosse parfois. mais il y a une façon de gérer le vert à Marseille qui est tout à fait propice à favoriser une certaine biodiversité. Par contre, en ce qui concerne les papillons, on peut l'observer sur certains animaux, comme les oiseaux, où on va avoir des pigeons, des moineaux, même les pies, on les voit de plus en plus coloniser l'urbain, elles vont finir par trouver leur compte. Et il y a une certaine adaptation de la faune à cet environnement urbain, et on voit des espèces qui vont parfois réussir mieux en ville qu'en périphérie. Les papillons, c'est pas encore le cas. C'est des espèces qui dépendent vraiment, qui existe grâce à un lien étroit avec la végétation. Et quand la plante n'est pas là, le papillon ne sera pas là. Et c'est aussi lié à un phénomène d'artificialisation un petit peu de la flore, avec beaucoup d'exotiques, qui fait que nos petites espèces méditerranéennes, parfois, elles ne trouvent pas leur compte en urbain.
Est-ce que tu voulais dire tout à l'heure, pour être un tout petit peu plus précis, que certains défauts d'entretien de certains espaces verts pourraient favoriser l'émergence d'une faune, d'une flore particulièrement intéressante ?
Ouais, Marseille, c'est pas... Voilà, c'est pas une ville où les espaces de nature sont tirés à 4 épingles, à part le parc Borély, le parc Longchamp. Et là, effectivement, on trouve des faunes relativement appauvries. Et je pense que c'est lié aussi à un avantage qu'a Marseille, c'est sa topographie. Enfin, là, on travaille dans des programmes interdisciplinaires avec des sociologues et des géographes pour ne pas avoir simplement l'œil du biologiste sur ces espaces. On se rend compte que Marseille est plus dans l'entretien que dans une réelle gestion. Et du coup, dès qu'il y a un petit dénivelé, dès qu'il y a un problème pour passer avec la machine, là, d'un coup, on génère des espaces très, très riches. Et donc la carto est importante et la géographie finalement est malgré tout importante dans ces traversées de ville du point de vue des petites bêtes.
La géographie et puis aussi les mutations urbaines qui permettent de révéler au travers des chantiers, au travers des requalifications, au travers des réhabilitations, des transformations de nouveaux espaces, peut-être des espaces justement à traverser ou qui offrent de nouveaux points de vue. Peut-être justement sur la manière dont les traversées que vous proposez ici même et Safi s'inscrivent dans cette mutation urbaine.
Jacques. Moi, je voulais juste revenir sans qu'on s'apesantisse dessus, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais revenir juste sur la cartographie, voilà, pour dire que on a beaucoup été fascinés par la cartographie, par les cartes, par les plans, et en même temps, qui dit plan dit surface plane. Donc, j'aimais bien ce que proposait Christine en disant qu'il fallait considérer ça plus comme des couches, quoi, et même plus que des couches, c'est plus des espèces de calques ou de millefeuilles comme ça, de feuillets, et ça pose vraiment la question, et c'est, je crois que c'est pour ça qu'on s'éloigne de plus en plus de la cartographie aussi, en tout cas chez ici même, c'est qu'il nous manque justement ce point de vue du papillon, je dirais, c'est-à-dire ce volume et cette multiplicité que la représentation n'est peut-être pas à même d'envisager, c'est-à-dire bien sûr c'est des trajets qu'on identifie ou pas après d'une manière topographique, topologique, avec une dénomination ou pas, mais c'est aussi des vitesses, c'est aussi des temporalités, voilà, c'est pas que des espaces, quoi. Je crois que c'est ça qui fait aussi que, quand on parlait de guide tout à l'heure, soit il y a une absence de guide, soit il y a une multiplicité de guides, c'est-à-dire que finalement tout le monde à l'intérieur du groupe peut s'avérer guide, mais c'est aussi multiplier peut-être aussi justement le guide dans le sens du, on parlait de guide, du guide touristique, c'est-à-dire aussi justement il y a des cartes, mais il y a aussi toutes sortes d'autres guides, il peut y avoir du son qui va faire guide, il peut y avoir voilà, justement des multiplicités aussi de guides. Bref, c'est vraiment un problème, quoi, effectivement. C'est que tout le monde se met à faire des cartes. Moi, je trouve ça, c'est super, tant mieux. Mais en même temps, est-ce qu'il ne faudrait pas, finalement, inventer autre chose, quoi, voilà.
Sur ces mutations urbaines, j'y reviens quand même, parce que c'est important, sur la manière dont ces traversées prennent en compte les transformations des villes, des transformations qui sont parfois au bénéfice des habitants, et parfois qui relèvent aussi de la relégation ou de la gentrification, très clairement. On a vu tout à l'heure que votre travail s'inscrivait dans un engagement, on a utilisé le mot d'utopie, il y a un engagement évident. Donc peut-être quel regard vous portez sur ces transformations urbaines, leurs aspects parfois positifs, mais aussi parfois ravageurs. Peut-être là, c'est pour clore un petit peu ce débat, une question très ouverte autour de cette table. Qui veut réagir dessus? Christine Breton.
Tout de suite, toujours pareil, la nécessité de voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la ville, elle se fait dans notre dos. Et ce qui est formidable dans les traversées urbaines, c'est qu'on voit. Alors, on n'est pas obligé de comprendre ce qu'on voit. Hein. Des fois, on ne comprend même rien du tout, mais on voit. Déjà, on peut faire quelque chose avec ça. Et surtout, je pense que dans ce type de traversée urbaine, c'est pas le mot urbain, c'est pas le mot traversée qui va compter, je crois, c'est pour ma part. C'est le mot des savoirs. Et il en est de la fabrication de la ville. C'est aussi un savoir, comme le savoir des papillons, le savoir des plantes, le savoir de la géographie, etc. Tous ces savoirs-là, ou le savoir du patrimoine et de l'histoire, il ne faut quand même pas que j'oublie le métier dans lequel j'exerce. Et ces savoirs, ils ont... En marche, ils ont une qualité. Et cette qualité, pour le moment, je ne trouve que ce mot, c'est une qualité coopérative. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'exercice de savoir hiérarchique, on est vraiment dans l'exercice de savoir coopératif. Et je crois que c'est ça, marcher ensemble. Et je pense que là, du coup, ta ville qui est en train de se faire, avec les pires choses, hein, parce que nous, par exemple, quand on traverse, eh ben, voilà, en une semaine, on peut se retrouver devant un mur, un portail, parce qu'il y a une collectivité qui s'est enfermée, emmurée, et qu'on ne peut plus passer. Bon, alors, il y a certains d'entre nous, des marcheurs, qui mettent des petites échelles et qui passent quand même, etc. etc. C'est bien, hein, tout ça permet de continuer de comprendre. Mais c'est... Ce serait ça, un savoir coopératif, c'est-à-dire le moment où on est en face d'un morceau de ville qui est en train de se fabriquer, s'il se fabrique dans notre dos, alors on n'est plus dans du coopératif. Alors on est dans un bâtiment qui sert de base à une grande tour, de ces tours magnifiques de la cité de la Viste qui veut être démolie dans un programme en rue. Alors on se retrouve dans des destructions massives de collines pour la construction de 3 villas et demie avec piscine. Alors, etc., etc. Voilà, ça c'est dans notre dos. C'est-à-dire qu'on n'est plus en coopération possible.
Oui, enfin, moi, je vais complètement dans ton sens, Christine. Et effectivement, plus que voir, c'est ce que tu disais, c'est vraiment d'éprouver. C'est vraiment ça, c'est-à-dire d'éprouver sur place, de s'apercevoir que là où on passait, on ne peut plus passer, et c'est pas simplement effectivement un objet théorique, c'est voilà, je ne peux plus passer, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe au niveau des usages, des pratiques de la ville et de l'urbanisme et de l'urbanité, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, il y a des frontières, il y a des limites, et elles sont pas seulement invisibles, elles sont des fois vraiment purement réelles, concrètes, matérielles, quoi. Donc c'est vraiment l'expérience même, effectivement, c'est ça, c'est d'être sur le terrain, finalement, de ne pas abandonner le terrain, quoi, c'est ça, c'est d'arpenter et d'éprouver, quoi, la ville, de ne pas lâcher le terrain, c'est ça, ouais.
Je voudrais proposer à Nathalie Marteau de conclure cette conversation perchée. Tout à l'heure, on entendait Christine Breton parler d'émergence d'un savoir coopératif. Alors, comment est-ce qu'une proposition comme ces traversées questionne le rôle d'un théâtre, comme le Merlan? Nathalie Marteau.
Oui, c'est une bonne question. Bah, en fait, moi, je prends au vol des mots qui ont été prononcés là et qui, pour moi, composent ce qui justifie une bizarrerie apparente qu'une scène nationale propose à des spectateurs de dormir sur le plateau, fasse traverser une ville la nuit. Bon, c'est pas... il faut le justifier aussi. Et c'est là où ça devient intéressant. Donc moi, quand j'entends, c'est toi qui l'as dit en premier, révéler la ville comme un bien commun, un espace partagé, quand j'entends l'humain, remettre l'humain au cœur d'un projet de société, quand j'entends nécessité de Christine Breton, être ensemble, coopératif, tout ça renvoie au fait que par rapport à un théâtre, je pense que le fait de soutenir et de favoriser des projets comme ceux dont on vient de parler, c'est finalement de fait aujourd'hui un acte politique, j'ai envie de dire. Alors politique au sens où ça interroge la question de la culture, c'est-à-dire en fait tout ce que les participants viennent de dire, c'est qu'est-ce qui fait culture aujourd'hui et que finalement on peut reconsidérer que la culture est un bien commun et que ce bien commun... c'est en effet ce qui est contemporain aujourd'hui. Ce qui est contemporain aujourd'hui, c'est en effet de vivre ensemble en ville. Donc, dans ce sens-là, qu'un théâtre veuille quitter une vision un peu traditionnelle d'une culture un peu descendante, mais qu'on soit plus sur des choses horizontales, de coopération, de partage, de participation, parce qu'on est dans une période de notre histoire où le changement devient nécessaire. Voilà, c'est comme ça que je pense qu'il faut voir le rôle d'un théâtre, ou en tout cas, c'est dans ce sens-là qu'on peut justifier ces types d'expériences. Et pour conclure, Jérémy y faisait allusion, je crois qu'on a beaucoup cheminé depuis le début des vagabondages jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on crée un comité de ressources qui va mélanger des artistes, des urbanistes. Et au fond, ce que ça raconte, c'est que c'est pas seulement dans le domaine artistique que ça bouge. On est dans une période où le changement est tout à fait nécessaire. Donc c'est les lignes qui bougent. Et en effet, que des techniciens, des ingénieurs aient besoin d'outils pour appréhender le sensible, et que des artistes aient besoin de s'appuyer sur des connaissances techniques comme Safi, qui à un moment donné peuvent avoir besoin de connaître les projets de rue, c'est-à-dire rénovation urbaine sur ces quartiers, pour les détourner, pour décaler le regard, pour faire des balades et des visites entre guillemets autrement. Je pense que c'est ça l'enjeu, et que l'aspect coopératif dont parle Christine Breton, au fond, je pense que c'est le mot-clé. Après, il faut bien considérer que derrière tout ça, il y a des nécessités de changement qui ne sont pas gagnées, que considérer l'art et la culture comme un bien commun, c'est loin d'être acquis, et que c'est bien ensemble qu'il va falloir avancer dans ce domaine-là, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra en effet réappréhender et remettre la question de l'humain au cœur des choses, parce qu'on s'en est fortement éloigné.
Merci à toutes et à tous, Nathalie Marteau, Dalila Ladjal, Jacques Boyer, Jérémy Garniaud, Christine Breton, Nadira Hamsagri, Louise Pascal, Marie-Hélène Lisée et Géraldine Garnier. Les Traversées, un ensemble de programmation proposé par le Merlan du 4 au 12 juin avec les collectifs ici même Grenoble et Safi. Deux traversées, du cinéma radio guidé, du cinéma tout court d'ailleurs, autour de la Palestine, avec une thématique autour de la Palestine. Les dessous d'un chantier et puis bien d'autres choses encore. Toute la programmation est sur www.merlan.org. J'oubliais aussi l'inauguration d'un jardin, décidément un ensemble très complet pour cette programmation, à laquelle Grenouille bien entendu s'associe très activement, notamment pour les traversées nocturnes et les sorties de nuit, deux moments d'antenne sur toute une nuit et le lendemain à 13h à écouter pour les marcheurs et puis pour ceux qui marchent chez eux. Un grand moment de gratitude à Sébastien Gély, Perchman de cette émission. Merci encore à tous.
Bravo.